Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourois. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Lettre à son frère Théo, de Vincent Van Gogh. Vincent William Van Gogh est né le 30 mars 1853 dans le village de Groetzender, dans la province hollandaise du Brabant septentrional, près de la frontière belge. Son père, Théo de Rus, est pasteur d'une petite église hollandaise réformée. La mère de Vincent, Anna Cornelia Carbentus, est douce et discrète. Si Vincent est l'aîné des enfants, il n'est pas le premier. Un an jour pour jour avant sa naissance, un autre Vincent Willem est mort-né. Le second Vincent dut passer chaque dimanche de son enfance sur le chemin de l'église, devant la tombe où il voyait inscrit le nom de son frère, le sien. La famille du pasteur comptait deux garçons et deux filles. Parmi eux, Théo, son cadet de 4 ans, dont le destin devait être inextricablement lié à celui de son frère. Vincent quitte l'école à 16 ans. Il trouve un emploi dans les bureaux de Goupil & Compagnie, à La Haye. La maison Goupil est spécialisée dans les belles reproductions de toiles célèbres. Vincent décide plus tard de partir en Angleterre et obtient un poste d'instituteur dans un pensionnat de Ramsgate, puis dans une école où il peut à l'occasion enseigner la Bible et prêcher dans une chapelle méthodiste locale. En décembre 1876, il rentre chez ses parents qui logent à présent à Etten. Ils sont frappés de sa maigreur. Il est clair que sa vocation est d'être pasteur. Il part étudier à Amsterdam, mais abandonne au bout d'un an, sans même se présenter aux examens. Vincent se rend ensuite dans la sinistre région minière du Borinage, en Belgique. Il descend avec les mineurs dans les entrailles de la terre. Il voit des enfants travailler comme des forçats. Il soigne les victimes d'explosions et d'éboulements. C'est aussi au sortir de ces ténèbres que Vincent décide de devenir artiste. Il multiplie les croquis des mineurs et de leur environnement. C'est à cette période qu'il subit un échec amoureux. Kate Vos, une cousine germaine d'Amsterdam, venue chez ses parents se déclarer, ne la trouvant pas, Vincent met sa main au feu, jurant qu'il ne la retirera qu'une fois qu'il aura vu Kate. Ce geste désespéré inquiète son entourage. Vincent s'installe ensuite à La Haye, où il envisage d'étudier avec le peintre Anton Mauve, un cousin par alliance, et surtout l'un des tenants les plus prisés de l'école de La Haye. Pendant ce temps, son art fait d'immenses progrès. Mon cher Théo, c'est un peu à contre-cœur que je t'écris, ne l'ayant pas fait depuis si longtemps, et cela pour maintes raisons. Peut-être même que je ne t'aurais pas écrit si toi-même tu ne m'avais pas mis dans la nécessité de le faire. J'ai appris à Etten que tu avais envoyé 50 francs pour moi. Eh bien, je les ai acceptés. Certainement à contre-cœur, certainement avec un sentiment assez mélancolique. Mais je suis dans une espèce de cul-de-sac ou de gâchis. Comment faire autrement? C'est donc pour t'en remercier que je t'écris. Frère, nous sommes devenus l'un pour l'autre comme des étrangers. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas continuer ainsi. Te souviens-tu? Je songe à nos promenades près du moulin de Rysvik, à notre passion partagée pour les tableaux et les choses d'art. Ainsi, je garde l'espoir que nous pourrons rétablir entre nous cette amitié qui rend les choses plus légères, cette entente cordiale qui vaut mieux que le malentendu. Me voici ces jours-ci occupé beaucoup de ce qu'on appelle l'âme, ce quelque chose qui s'appelle l'âme. On prétend que cela ne meurt jamais et que cela vit toujours et cherche toujours et toujours et toujours encore. C'est cette force que je sens en moi, qui me fait chercher, espérer au-delà de la misère. Elle est, ce qui est véritablement bon et beau, de beauté intérieure dans les hommes et leur œuvre, et je pense que cela vient de Dieu. Je suis toujours porté à croire que le meilleur moyen pour connaître Dieu, c'est d'aimer beaucoup. Aimer tel ami, telle personne, telle chose, ce que tu voudras, cela mène à Dieu. Mais aimer vraiment, du fond de votre cœur. Quelqu'un, pour donner un exemple, qui aimera Rembrandt, mais sérieusement, il saura bien qu'il y a un Dieu, celui-là. Il y croira vraiment. Cet autre, qui étudiera comme moi l'histoire de la Révolution française, il verra que dans les grandes choses aussi, il y a une puissance souveraine qui se manifeste. Cherchez à comprendre le dernier mot de ce que disent les grands artistes, les grands maîtres. Il y aura Dieu là-dedans. Tel l'a écrit dans un livre et tel autre dans un tableau. Chacun porte Dieu à sa façon. C'est bien beau, me diront certains de ma famille. Mais que fais-tu de ta vie? Ne reste pas comme un feignant à faire le philosophe que tu n'es pas. Que répondrais-je à cela, mon frère? Je dirais qu'il y a feignant et feignant. Il y a celui qui est feignant par paresse et lâcheté de caractère. Puis il y a l'autre feignant. Le feignant bien malgré lui, qui est rongé intérieurement par un grand désir d'action, qui ne fait rien parce qu'il est dans l'impossibilité de rien faire, puisqu'il est comme en prison dans quelque chose. Il sent par instinct qu'il est bon à quelque chose. À quoi donc pourrais-je être utile? À quoi pourrais-je servir? Il y a quelque chose au-dedans de moi. Qu'est-ce que c'est? Celui-là est tout autre feignant. Tu peux bien me prendre pour un tel. Un oiseau en cage au printemps sait bien qu'il y a quelque chose à quoi il serait bon, mais il ne peut le faire. Il a des idées vagues et se dit, les autres font leur nid et font leur petit et élèvent la couvée, puis il se cogne le crâne contre les barreaux de la cage. Et puis la cage reste là, et l'oiseau est fou de douleur. Ensuite vient la saison des migrations. Accès de mélancolie. Mais, disent les enfants qui le soignent dans sa cage, il a pourtant tout ce qu'il a faut. Mais lui de regarder au dehors le ciel gonflé, chargé d'orage, et de sentir la révolte contre la fatalité en dedans de soi. Je suis en cage, je suis en cage. Et il me manque donc rien, imbécile? Ah, de grâce, la liberté, être un oiseau comme les autres oiseaux, voler, chanter, vivre. Tu sais peut-être que pour le moment, toutes mes affaires vont mal, et cela peut encore rester comme cela pour un avenir plus ou moins long. Mais il se peut qu'après que tout a semblé aller de travers, tout aille mieux ensuite. La cage pourrait s'ouvrir. Si cela était, j'en serais content. Je dirais, enfin, enfin. Pour aujourd'hui, je te serre la main, en te remerciant encore de la bonté que tu as eue pour moi. Et sache qu'en m'écrivant, tu me feras du bien. Quand il ne pleut pas, je sors chaque jour, généralement dans la bruyère. Je fais mes études assez grandes, comme tu en as vu lors de ta dernière visite. C'est ainsi que j'ai fait, entre autres, une cabane dans la bruyère, et aussi cette grange avec toit de roseau sur la chaussée de Rosendahl, qu'on appelle ici la grange protestante. Je sens aussi de plus en plus que le dessin des figures est une bonne chose, qu'il est indirectement profitable au dessin du paysage. Quand on veut dessiner un sol, comme si c'était un être vivant, et il en est ainsi à vrai dire, tout ce qui l'entoure vient relativement tout seul, pourvu qu'on ait concentré toute son attention sur l'arbre en question et qu'on ne se soit pas arrêté avant de le faire revivre. Pour m'entraîner au dessin des figures, j'ai presque tous les jours quelques modèles que je fais poser, comme me l'a conseillé mon parent, le peintre Mauve. Jusqu'à 5 fois, j'ai dessiné un paysan, avec une bêche, un bêcheur, dans toute espèce d'attitude, 2 fois un semeur, 2 fois une fille avec un balai. Ensuite, une femme avec un bonnet blanc qui épluche des pommes de terre. Et un berger appuyé sur son bâton. Et enfin, un vieux paysan malade, assis sur une chaise près du foyer, la tête dans les mains et les coudes sur les genoux. Il faudra que je dessine sans cesse des bêcheurs, des semeurs, des laboureurs, hommes et femmes, que j'examine et étudie tout ce qui fait partie de la vie à la campagne. Qu'est-ce l'art, Théo ? Je me pose et me repose inlassablement cette question. Il me semble que l'art et la vérité ne font qu'un. Et pour arriver à la vérité, il faut travailler longtemps et beaucoup. Je veux faire des dessins qui frappent certaines gens. Je veux qu'ils contiennent quelque chose de mon propre cœur, soit dans la figure, soit dans le paysage. Je voudrais exprimer non pas un sentiment de mélancolie, mais une profonde douleur. Je veux arriver au point qu'on dise de mon œuvre « Cet homme sent profondément et cet homme sent délicatement, malgré sa soi-disant grossièreté ou précisément à cause d'elle. » Que suis-je aux yeux de la plupart ? Une nullité ou un homme excentrique ou désagréable ? Quelqu'un qui n'a pas de situation dans la société ou qui n'en aura pas ? Enfin, un peu moins que rien. Je voudrais montrer par mon œuvre ce qu'il y a dans le cœur d'un tel excentrique, d'une telle nullité. C'est mon ambition, qui est moins fondée sur la rancœur que sur l'amour malgré tout, plus fondée sur un sentiment de sérénité que sur la passion. Encore que je sois souvent dans la misère, il y a pourtant en moi une harmonie et une musique calme et pure. Dans la plus pauvre maisonnette, dans le plus sordide petit coin, je vois des tableaux et des dessins. Et mon esprit va dans cette direction par une poussée irrésistible. De plus en plus d'autres choses me quittent. Et plus elles me quittent, plus rapide devient mon regard pour voir le côté pictural. Plus ces choses me quittent, et plus la peinture demeure ma dernière ressource et ma première raison d'être ici. Mon vieux, cette lettre est pour toi seul. Tu voudras bien la garder pour toi, n'est-ce pas ? Quelque chose m'affecte l'âme. Peut-être es-tu déjà au courant ? Je voulais te dire que cet été, j'ai commencé à aimer Kate. Mais quand je lui ai dit, elle m'a répondu que jamais elle ne pourrait répondre à mes sentiments. Jamais, non, jamais. Voilà ce qu'elle me répond. Elle ne veut pas de moi. Et moi, je l'aime. Quand je me regarde, je vois que cet amour a quelque chose de positif, quelque chose de fort. Mais, m'objecteras-tu, tu te trouves devant un « jamais, non, jamais ». À quoi je réponds ? Mon vieux, je considère ce « jamais, non, jamais » comme un glaçon que je serre sur mon cœur pour le faire dégeler. Savoir qu'il emportera de la froideur de ce glaçon ou de ma chaleur vitale, c'est une question sur laquelle je ne me prononce pas. Je veux juste être joyeux comme une alouette au printemps. Je ne veux chanter d'autre chanson que « Aimer encore ». Il y a des hommes autour de moi qui, voulant m'aider, s'occupent à m'arracher le glaçon de la poitrine et versent sur mon amour plus de seaux d'eau froide qu'ils ne le pensent. Ne trouves-tu pas niais tous ces gens qui me disent que j'apprendrai bientôt qu'elle a accepté un autre parti plus riche, qu'elle est devenue belle et sera demandée en mariage. Il me répète qu'elle a décidément peu de goût pour moi et qu'il serait dommage si je laissais passer une autre occasion encore meilleure. Celui qui ne sait pas dire « elle et aucune autre », sait-il ce que c'est que l'amour ? Quand on m'a dit toutes ces choses, j'ai senti avec tout mon cœur, toute mon âme, toute mon intelligence, elle et aucune autre. Faiblesse, passion, déraison, allégueront peut-être certains. Que ma faiblesse soit ma force, je veux être dépendant d'elle et d'aucune autre. Et si je le pouvais, je ne voudrais pas être indépendant d'elle. Quand cet été, j'ai entendu ce « jamais, non jamais », mon Dieu, que ce fut terrible. À ce moment-là, j'en fus projeté un moment à terre, tant le coup était dur. Mais, dans cette indicible angoisse, une idée jaillit comme une clarté dans la nuit. Se résigne celui qui peut se résigner. Et si vous pouvez croire, alors croyez. Je me suis relevé alors, non pas comme un résigné, mais comme un croyant, et je n'ai eu d'autre pensée que celle-ci, elle et aucune autre. Théo, ton frère est amoureux. Je voudrais qu'à ton tour, que tu sois amoureux toi-même, mais pour cela, il faut une elle. En ce qui concerne cette elle, il en est comme d'autres choses. Qui cherche trouve. À bon entendeur, salut. Vincent quitte définitivement la Hollande. En février 1888, dans un état complet d'épuisement, il décide brusquement de quitter Paris pour s'installer à Arles, dans le Midi. Arles, c'était comme un Japon rêvé. Les lignes étaient plus pures, les couleurs plus denses. 1888 est une année de production effrénée. Sa santé est précaire et l'accueil des Provençaux est d'une rare froideur. Lettre après lettre, Vincent expose à Théo ses espoirs de voir Paul Gauguin le rejoindre. En 1888, pauvre et malade, Gauguin peint en Bretagne, où Pontavin fait figure de colonie d'artistes. Le 24 décembre 1888, Gauguin, excédé à la suite d'une dispute, quitte leur maison jaune pour s'installer à l'hôtel. Vincent se tranche l'oreille gauche d'un coup de rasoir. Il est hospitalisé et l'on craint pour ses jours. Désormais, sa vie n'est qu'une suite de séjours en hôpital, de rétablissement et de rechute. Le 8 mai 1889, Vincent est admis à l'asile de Saint-Rémy. Durant le voyage, j'ai pensé à toi, qu'au nouveau paysage que je voyais. Seulement, je me dis que plus tard, tu viendras peut-être toi-même souvent ici. Il me semble presque impossible de pouvoir travailler à Paris, à moins que l'on ait une retraite pour se refaire. Sans cela, on serait fatalement abruti. Maintenant, je te dirai que pour commencer, il y a partout au moins 60 cm de neige, et il en tombe toujours. Arles ne semble pas plus grand que Bréda ou Mons. Avant d'arriver à Tarascon, j'ai remarqué un magnifique paysage d'immenses rochers jaunes, étrangement enchevêtrés des formes les plus imposantes. Dans les petits vallons de ces rochers étaient alignés de jeunes arbres ronds au feuillage d'un vert olive ou vert gris qui pourraient bien être des citronniers. Mais ici, à Arles, le pays paraît plat. J'ai aperçu de magnifiques terrains rouges plantés de vignes, avec des fonds de montagne du plus fin lilas, et les paysages dans la neige, avec les cimes blanches contre un ciel aussi lumineux que la neige, étaient bien comme les paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais. Je ne trouve pas jusqu'à présent la vie aussi avantageuse que j'eusse pu l'espérer, seulement j'ai trois études de fait. Une vieille femme arlésienne, un paysage avec de la neige, une vue d'un bout de trottoir avec la boutique d'un charcutier. Les femmes sont bien belles ici. C'est pas une blague. Par contre, le musée d'Arles est une blague atroce. Voilà que ce matin, le temps a changé et s'est adouci. J'ai donc déjà eu l'occasion d'apprendre ce que c'est que le Mistral. Le ciel d'un bleu dur avec un grand soleil brillant qui fait fondre toute la quantité de neige, mais le vent est si froid et si sec qu'on en a la chair de poule. Mais néanmoins, j'ai vu de bien belles choses. Une ruine d'abbaye sur une colline plantée de houx, de pins, d'oliviers gris. Nous attaquerons cela sous peu, j'espère. Je t'écris maintenant de Sainte-Marie au bord de la Méditerranée, enfin. La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert ou violet, on ne sait pas toujours si c'est bleu, car la seconde après, le reflet changeant a pris une teinte rose ou grise. Je me suis promené, une nuit, au bord de la mer, sur la plage déserte. C'était pas gai, mais pas non plus triste. C'était beau. Le ciel d'un bleu profond était tacheté de nuages, d'un bleu plus profond que le bleu fondamental d'un cobalt intense, et d'autres d'un bleu plus clair, comme à la blancheur bleue de Voie lactée. Dans le fond bleu, les étoiles scintillaient, claires, verdies, jaunes, blanches, roses, plus claires, diamantées comme des pierres précieuses. J'ai reçu une lettre de Gauguin qui dit qu'il a été malade, au lit durant 15 jours, qu'il est à sec, vu qu'il a eu des dettes criardes à payer, qu'il désire savoir si tu as vendu quelque chose, mais qu'il ne peut pas t'écrire de crainte de te déranger, qu'il est tellement pressé de gagner un peu d'argent qu'il serait résolu de rabattre encore sur le prix de ses tableaux. Si on est peintre, ou bien vous passez pour un fou, ou bien pour un riche. Une tasse de lait vous revient à 1 franc, une tartine à 2, et les tableaux ne se vendent pas. Voilà ce pourquoi il faut se combiner, comme faisaient les vieux moines, les frères de la vie commune de nos bruyères hollandaises. Je m'aperçois déjà que Gauguin espère la réussite. Il ne saurait se passer de Paris. Il n'a pas la prévoyance de l'infini de la gêne. Tu conçois combien cela m'est absolument égal dans ces circonstances de rester ici ou de m'en aller. Il faut lui laisser faire sa bataille. Il la gagnera d'ailleurs. Trop loin de Paris, il se croirait inactif. Mais gardons pour nous l'absolue indifférence pour ce qui est succès ou insuccès. Il est parfois bon d'aller beaucoup dans le monde et de fréquenter les hommes. Et parfois on est bien obligé et appelé. Mais celui qui préférerait rester tout seul et tranquillement à l'ouvrage et ne voudrait avoir que très peu d'amis, c'est celui-là qui circule avec le plus de sécurité parmi les hommes et dans le monde. Il ne faut jamais se fier au fait d'être sans difficulté ou sans souci ou empêchement de quelque nature, mais il ne faut pas se faire la vie trop facile. Et même dans les milieux cultivés ou dans les meilleures sociétés et les circonstances les plus favorables, il faut conserver quelque chose d'un caractère original d'un Robinson Crusoe ou d'un homme de la nature. Jamais laisser éteindre le feu de son âme, mais l'entretenir. Et celui qui continue à garder la pauvreté pour lui-même et qui la chérit, possède un trésor et entendra toujours clairement la voix de sa conscience. Celui qui écoute et suit cette voix intérieure, qui est le meilleur don de Dieu, finira par y trouver un ami et n'est jamais seul. Je vais aller pour 3 mois au moins dans un asile à Saint-Rémy, pas loin d'ici. En tout, j'ai eu 4 grandes crises où je ne savais pas le moins du monde ce que je disais, voulais, faisais. Je travaille cependant et viens de faire un tableau de l'hospice, une salle, une très longue salle, avec des rangées de lits à rideaux blancs où se meuvent quelques figures de malades. Les murs, le plafond aux grandes poutres, tout est d'un blanc, lilas ou blanc-vert. Depuis que je suis ici, le jardin désolé est planté de grands pins sous lesquels croît, haute et mal entretenue, une herbe entremêlée d'ivraies diverses. Cela m'a suffi pour travailler et je ne suis pas encore sorti dehors. Cependant, le paysage de Saint-Rémy est très beau et peu à peu, je vais y faire des étapes probablement. Avec cela, comme il y a plus de 30 chambres vides, j'ai une chambre encore pour travailler. Le manger est comme ci, comme ça. Cela sent naturellement un peu le moisi, comme dans un restaurant à cafards de Paris ou un pensionnat. Ces malheureux ne faisant absolument rien n'ont d'autres distractions journalières que de se bourrer de pois chiches, d'haricots et lentilles et autres épiceries et denrées coloniales par des quantités réglées et à des heures fixes. La salle où l'on se tient les jours de pluie est comme une salle d'attente troisième classe dans quelques villages stagnants, d'autant plus qu'il y a d'honorables aliénés qui portent toujours un chapeau, des lunettes, une canne et une tenue de voyage comme au bain de mer. J'ai dessiné hier un très grand papillon de nuit assez rare, qu'on appelle la tête de mort, d'une coloration d'un distingué étonnant, noir, gris, blanc, nuancé et à reflets carminés ou vaguement tournant sur le vert olive. Il est très grand. Pour le peindre, il aurait fallu le tuer, et c'était dommage, tellement la bête était belle. Je t'enverrai le dessin avec quelque autre dessin de plante. Vincent perd tout espoir à Saint-Rémy, et dans ses lettres se manifeste le désir de retourner dans le Nord. Il rejoint Auvers-sur-Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris, où vit un médecin spécialiste des maladies mentales et ami des artistes modernes, le docteur Gachet. Van Gogh respecte une discipline de fer, se lève tôt et travaille avec enthousiasme. Son travail, accompli au prix d'efforts surhumains, manifeste une angoisse croissante. C'est le moment où il peint « Champ de blé aux corbeaux », l'un de ses derniers tableaux. Ces corbeaux, le dimanche 27 juillet 1890, Vincent prétend vouloir les abattre. Quittant l'auberge avec son chevalet et un revolver, il part dans les champs. Vincent Van Gogh meurt le mardi dans la nuit, 36 heures après s'être tiré une balle dans le ventre. Un grand nombre d'amis viendront à Auvers pour l'enterrement. Sur son cercueil, une simple draperie blanche et des masses de fleurs jaunes partout. C'était sa couleur favorite. Théo Van Gogh, qui adorait son frère, qu'il avait toujours soutenu dans sa lutte pour l'art et l'indépendance, sanglotait sans arrêt. Au dehors, le soleil était férocement chaud. Le chagrin a brisé Théo. Il doit être interné et meurt le 25 janvier 1891, moins de 6 mois après son frère Vincent. Enterré en Hollande, ses restes seront transférés par sa veuve, 23 ans plus tard, aux côtés de Vincent. En 1946, dans son asile de Rodez, l'écrivain Antonin Artaud, 1896-1948, écrit le journal d'un suicidé, un hommage à Vincent Van Gogh. En voici l'introduction. La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion. Et inerte, gardée par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leur repli éventré. Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire. Non dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas de famine, d'épidémie, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre, qui rebroussent les monades de l'air, qui tordent le destin névrotique des choses comme une peinture de Van Gogh, sortie au jour, remise à même la vue sur les murs d'une exposition, enfin lancée à neuf dans l'actualité courante, réintroduite dans la circulation. Il n'y a pas dans la dernière exposition Van Gogh au palais de l'Orangerie toutes les très grandes toiles du malheureux peintre, mais il y a parmi celles qui sont là assez de touffes de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'un if, de soleils violacés tournant sur des meules d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments, Van Gogh a tiré ses espèces de chants d'orgue, ses feux d'artifice, ses épiphanies atmosphériques. Ce grand œuvre enfin d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ses corbeaux peints, 2 jours avant sa mort, ne lui ont, pas plus que ses autres toiles, ouvert la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte d'un au-delà possible, d'une réalité permanente possible, à travers la porte par Van Gogh d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme avec, dans le ventre, le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec au-dessous une espèce de plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lie de vin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su, comme lui, trouver, pour peindre ses corbeaux, ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche, et en même temps comme excrémentiel des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre, sous les ailes des corbeaux fastes, faste pour le seul Van Gogh sans doute, et d'autre part fastueux augure d'un mal qui lui ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas de côté de foudre. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme. Digne accompagnement à la mort de celui qui, durant sa vie, fit tournoyer tant de soleils ivres sur tant de meules en rupture de banc et qui, désespéré, un coup de fusil dans le ventre, ne sut pas ne pas inonder de sang et de vin un paysage, tremper la terre d'une dernière émulsion, joyeuse à la fois et ténébreuse, d'un goût de vin aigre et de vinaigre taré. C'est ainsi que le ton de la dernière toile peinte par Van Gogh est, lui, qui d'autre part n'a jamais dépassé la peinture, d'évoquer le timbre abrupt et barbare du drame élisabétain le plus pathétique, passionnel et passionné. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.